journal présenté par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Brexit Day, premier conseil des ministres britanniques, historique, il s'est tenu aujourd'hui dans un fief du Brexit. Pendant ce temps, à Bruxelles, on est entre le rire et les larmes, nous y serons aussi dès le début de ce journal. Les premiers Français rapatriés de Wuhan sont arrivés dans le sud de la France, ils sont à l'isolement pour 15 jours. Le procès pour impeachment de Donald Trump se poursuit aux États-Unis avec de moins en moins de suspense, nous irons à Washington. En préambule au municipal, la circulaire Castaner sur les nuances politiques retoquées, copie à refaire selon le Conseil d'État. Jour J du Brexit, symboliquement le premier conseil des ministres post-Brexit du Royaume-Uni, s'est donc tenu aujourd'hui à Sunderland, au nord de l'Angleterre, une ville qui a voté à 61% pour quitter l'Union lors du référendum de 2016 et d'où est partie la première grande marche des Brexiteurs. Sur place, Marie-Pierre Véraud.
Boris Johnson qui vient de quitter Sunderland où il a donc présidé le Conseil des ministres. Il avait choisi un fief du Brexit en cette journée tellement spéciale. Sunderland a en effet voté à 61% pour le Leave lors du référendum, puis plébiscité le parti de Nigel Farage, le Brexit parti aux européennes. C'était un vote de protestation. Nous sommes ici, vous savez, dans une région déshéritée, dans le nord-est, longtemps oubliée par Westminster, une région qui a perdu ses chantiers navals, puis ses mines de charbon et qui aujourd'hui accueille donc un Premier ministre. Quel retournement, ce dont se réjouit une poignée de fans. Pauline et Eileen, en mitouflées dans leur doudoune, sont venues saluer leur héros. Je ne me souviens pas, dit l'une d'elles, d'avoir jamais vu un Premier ministre mettre le pied à Sunderland. Et j'ai 58 ans. C'est un grand jour, vraiment. Et j'ai voulu montrer mon soutien. Moi, j'étais en route vers la plage, dit son ami, pour promener mon chien. Et j'ai entendu à la radio qu'il était là. Je me suis dit, je vais voir Boris aujourd'hui. C'est un privilège de le voir dans le Nord-Est, particulièrement à Sunderland. Et oui, Sunderland, qui abrite aussi la principale usine européenne du groupe Nissan, 7000 salariés, 20 000 emplois induits, c'est dire si on y tient et si l'on espère qu'il y aura un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne et pas de barrières douanières. Un retour des taxes aux frontières pourrait en effet mettre en péril ces emplois. Boris Johnson a promis de les protéger et d'investir ici. Il va maintenant falloir passer aux actes. Mais en attendant, Sunderland va célébrer ce jour en s'illuminant ce soir du bleu, du rouge et du blanc, les couleurs de l'Union Jack, le drapeau britannique.
Vous l'évoquiez, Marie-Pierre, c'est le début d'une longue phase de transition qui s'ouvre. Elle durera au moins une année, pendant laquelle le Royaume-Uni continuera d'appliquer les règles européennes sans pour autant avoir voix au chapitre. Des négociations qui s'annoncent complexes entre Londres et Bruxelles, notamment en matière de commerce, de sécurité et aussi sur le dossier de la pêche. À Bruxelles, on craint une concurrence déloyale puisque les conditions dans les domaines de l'environnement, du travail et de la fiscalité notamment, ne seront plus du tout équivalentes. Bruxelles, où ce dernier jour a été plein d'émotions, alors que certains sont sortis de l'hémicycle Union Jack au poing et au son des cornemuses, d'autres ont pleuré dans les bras des eurodéputés qu'ils allaient quitter. Plus discrètement, mais avec beaucoup d'émotions, des dizaines de fonctionnaires et employés britanniques du quartier s'étaient donné rendez-vous sur l'heure du déjeuner dans la chapelle de l'Europe pour se recueillir.
Dans l'Assemblée, certains portent une écharpe bleu, blanc et rouge aux couleurs des drapeaux européens et britanniques. Les visages sont graves.
May these talks be conducted in an atmosphere of trust and mutual respect.
Prions pour que les négociations à venir se fassent dans la confiance et le respect mutuel, déclare l'officiant. À la sortie, Déborah, une militante anti-Brexit, confie son désarroi.
Ça fait 3 ans et demi que je lutte sur Twitter, sur campaigning, de faire les manifs, tous ces genres de choses, mais j'ai pas encore pleuré, mais aujourd'hui j'ai pleuré.
À ses côtés, James, costume et chapeau melon sur la tête, repart à son bureau. Depuis 4 ans, on s'était préparé, dit-il, mais c'est vrai que c'est un choc.
C'est un échec pour la Grande-Bretagne, un échec pour tous les Britanniques, mais aussi un échec pour l'Europe, c'est un échec pour tout le monde.
Sarah est aussi fonctionnaire britannique ici à Bruxelles. C'est elle avec une poignée de collègues qui a organisé la cérémonie.
Pour tout le monde, c'est une journée très particulière. Quand même, pendant 47 années, c'était une coopération qui a achevé la prospérité, la sécurité et surtout la paix. Donc, on a voulu donner la chance aux gens d'être ensemble. C'est quand même une journée triste.
Une journée triste et un futur encore incertain pour notre pays, pour lequel il fallait prier, conclut-elle.
Un reportage d'Angélique Bois à Bruxelles. Emmanuel Macron s'adressera aux Français dans une dizaine de minutes pour acter un événement triste et historique et assurer, disait-il, qu'il défendra les intérêts de la France et de l'Union. Près de 10 000 cas de contamination au coronavirus en Chine, 213 décès dans le pays où 50 millions de personnes vivent aujourd'hui en quarantaine dans les villes de la province du Hubei, là où est apparu le virus, comme à Pékin où les rues sont maintenant complètement désertes. Dominique André sur place.
Sur les réseaux sociaux, les vidéos fleurissent. Partie de ping-pong improvisée sur une table, pêche dans un aquarium, jeu de quilles avec des enfants déchaînés, mais surtout gymnastique et danse à la maison. Les rassemblements de population étant fortement déconseillés, les Chinois ne dansent plus dans les parcs de Pékin, ne font plus leur gymnastique au pied des immeubles. Madame Chen danse donc à la maison et en a fait une vidéo pour ses copines.
Depuis le 20 janvier, je ne suis pas sortie de la maison. Avant, tous les matins, j'avais l'habitude de faire de la gymnastique avec mes amis au parc. Maintenant, je danse à la maison. Aujourd'hui, j'ai bien transpiré. La danse permet d'améliorer la résistance physique contre les maladies. J'ai envoyé cette vidéo aux amis pour qu'elles s'entraînent, comme moi. Je ne sors pas de la maison pour me protéger moi-même et protéger ma famille. C'est ma contribution à la patrie.
Mais le défi de Madame Chen, c'est surtout d'occuper ses petits-fils qui sont enfermés dans l'appartement depuis 8 jours.
Hors de Chine, 120 cas ont été recensés, mais aucun mortel. Les premiers Français rapatriés de la province de Wuhan ont atterri aujourd'hui à Istres. Ils sont 200 à avoir pris la direction d'un centre de vacances près de Marseille, sous escorte de motards de la gendarmerie. Ils y resteront 2 semaines. Un passager qui présentait des symptômes a lui été transféré directement à l'hôpital de la Timone à Marseille. En France, on a appris aussi qu'une 6e personne a été infectée. Un médecin libéral parisien qui avait été en contact avec une patiente de retour de Chine. L'OMS a déclaré l'urgence de santé publique, décision prise la nuit dernière. Et ce matin, l'INSERM faisait le point sur la situation, Maxime Tellier.
Oui, le nombre de morts augmente. Cela, on vous l'annonce chaque jour sur notre antenne. Mais dans le même temps, ce qui est important de noter, c'est que le taux de mortalité est plutôt en baisse, car à mesure que les données du terrain remontent et sont analysées, on a une connaissance plus fine de la situation. Et d'ailleurs, ces conclusions sont plutôt rassurantes. Yazdan Pana est directeur de l'Institut d'immunologie à l'INSERM.
Actuellement, les données qu'on a, c'est 2% de mortalité. Il faut être prudent pour voir si c'est vraiment 2%. Si c'est 2%, ça veut dire beaucoup plus bas que le SRAS.
Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, dont le taux de mortalité était de 10%, avec plus de 800 personnes tuées entre 2002 et 2003. L'autre indicateur important, c'est la contagiosité. Combien de personnes sont contaminées en moyenne lorsqu'aucune mesure d'isolement n'est prise? Et là aussi, on est plutôt loin des virus les plus dangereux.
Pour la rougeole, c'est 15 à 20 personnes. Pour le SRAS, c'était 2 personnes. Pour la grippe, c'est entre 1,5 et 2 personnes. Pour le nouveau coronavirus, c'est entre 2 et 3. Le dernier chiffre qui est sorti hier, c'est 2,2. Donc ça semble être un peu plus élevé que le SRAS et la grippe. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec une contagiosité comme une maladie comme la rougeole.
Et l'INSERM indique aussi que les personnes âgées sont les plus à risque, que les enfants sont plutôt épargnés. Quasiment aucun cas n'a été recensé, sans qu'on se l'explique vraiment d'ailleurs. À noter enfin, l'Institut Pasteur annonce ce soir qu'il est parvenu à isoler et à mettre en culture des souches du nouveau coronavirus. C'est une première en Europe. Une avancée majeure dans la recherche d'un vaccin et d'un traitement, annonce l'Institut.
Maxime Tellier. Aux États-Unis, le procès de Donald Trump reprend dans moins d'une heure. Les députés vont avoir à voter sur la convocation ou non de témoins, dont certains sont jugés capitaux pour l'accusation. Et alors que les républicains font bloc pour empêcher ces témoignages, Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Vous suivez pour nous les audiences à Washington. Il n'y a pas vraiment de doute sur l'issue de ces débats et l'acquittement du président américain. Et s'il n'y a finalement pas de témoins convoqués, ce sera alors tout bonnement la fin du procès.
Oui, vous avez raison. À 13h, heure de Washington, les 100 sénateurs américains vont donc se retrouver au Capitole pour une séance entièrement consacrée à cette question. Faut-il entendre des témoins sur cette affaire ukrainienne, comme par exemple l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton? 4 heures de débat sont prévues. Mais dès hier soir, le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, disait qu'il avait les 51 voix nécessaires républicaines pour rejeter toute convocation de témoins. Et si ça se passe comme ça, eh bien, on pourrait donc s'acheminer vers une fin du procès rapide ce soir, demain ou en début de semaine prochaine, un acquittement pour Donald Trump, un acquittement par un Sénat majoritairement républicain. Le camp conservateur est visiblement resté soudé derrière le président, et c'est sans doute pour ça qu'hier soir au meeting ici dans l'Iowa, Trump paraissait extrêmement confiant, parlant encore une fois de mascarade, de chasse aux sorcières. Le pari politique des démocrates était risqué. Il faudra voir maintenant quelles traces cet épisode de l'impeachment de Trump laissera, notamment pour la présidentielle de novembre, dans moins de 9 mois maintenant.
La présidentielle qui démarre dès lundi dans l'Iowa, Grégory.
Oui, premier caucus lundi. L'Iowa est le premier État à voter pour désigner celle ou celui qui affrontera Trump le 3 novembre. Et si jamais le procès en destitution se terminait bien ce soir, s'il se terminait bien, ça permettrait aux sénateurs Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, tous les 3 candidats à la présidentielle, de venir ici en Iowa faire les toutes dernières heures de campagne, demain et dimanche, alors qu'ils étaient bloqués depuis 10 jours à Washington, contraints de participer à ce procès.
Grégory Phillips, en direct de Washington. À quelques semaines des élections municipales en France, le Conseil d'État sanctionne le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner demandait au préfet d'attribuer une nuance politique aux listes dans les communes de plus de 9000 habitants, ce qui revenait à exclure 95% des communes. Il attribue également une nuance liste divers centres aux listes soutenues par La République En Marche, le Modem, l'UDI ou la majorité présidentielle. Des dispositions suspendues donc, et l'opposition s'en félicite à droite comme à gauche. Pour Aurélien Pradé, député du Lot et secrétaire général LR, le ministre de l'Intérieur avait tenté de truquer tout simplement le scrutin.
C'est une décision tout à fait grave parce qu'elle porte sur la sincérité du scrutin électoral. Et ce qui est doublement grave, c'est que le Conseil d'État précise bien que le ministre de l'Intérieur a tenté d'effacer, au fond, une partie des résultats annoncés des élections municipales. Si je suis très précis, le Conseil d'État dit 2 choses. Il dit d'abord que plus de 40% du vote des Françaises et des Français disparaîtrait en quelque sorte de la présentation publique avec la nouvelle circulaire. Et puis ce que dit le Conseil d'État aussi, c'est que au fond, ils ont trouvé une tactique, le gouvernement, qui consiste à faire basculer par défaut l'essentiel des nouveaux élus dans l'escarcelle de La République En Marche, alors même que ce n'est pas l'exactitude du scrutin. Bref, tout ça n'est pas une petite affaire, c'est une affaire grave parce qu'elle porte sur la sincérité du scrutin, et venant d'un ministre de l'Intérieur, c'est mon sens de la plus haute gravité.
Aurélien Pradier avec Pierre Neveu. Ce n'était pas tout à fait une surprise. Édouard Philippe se présentera bien au municipal au Havre. Il en a fait l'annonce officielle ce matin. Il sera tête de liste, mais ne quittera pas Matignon s'il est élu. Décision très critiquée par toutes les oppositions. L'économie française en recul, plus marquée que prévu, conséquence des grèves contre la réforme des retraites. La loi de réforme des retraites qui détient un nouveau record, celui du nombre d'amendements déposés, plus de 22 000 avant l'examen en commission à l'Assemblée à partir de lundi. La France insoumise est à l'origine de la plupart de ces amendements. Une polémique sur un sujet très délicat, le deuil après la perte d'un enfant. Les députés avaient rejeté à une très courte majorité la proposition d'un congé de 12 jours plutôt que de 5. Un texte rejeté par 40 voix contre 38 au terme d'un débat très houleux dans l'hémicycle. Et c'est aujourd'hui le MEDEF qui monte au créneau pour que soit instauré ce congé de 12 jours. Et ce matin, sur Twitter, encouragé par Laurence Parisot, son président Geoffroy Roux-de-Bézieux a demandé un nouveau vote pour cette proposition de loi. De quoi infléchir la position de la majorité, Thomas Larabi?
Oui, c'était une proposition de l'UDI à la base, mais c'est toute l'opposition qui dénonce aujourd'hui d'une même voix un vote honteux. La majorité a estimé que ce n'était pas aux entreprises de supporter ce poids financier. Et l'Assemblée a finalement adopté une proposition de la députée LREM Sereine Mauborgne, le compte de don.
Concrètement, votre voisine de bureau aux impôts qui perd son enfant de 14 ans d'un accident de scooter, et tout l'étage où, qui va proposer un jour de RTT ou de congé qui va être abondé de manière anonyme dans un compte et qui peut faire beaucoup plus de 12 jours et ensuite vous en bénéficiez quand vous voulez.
Une idée qui n'a pas plu est devant le tollé, appuyée aujourd'hui par la prise de position inattendue du MEDEF. Sereine Mauborgne est désormais ouverte à tout.
Ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est de proposer une concertation nationale sur ce sujet, puisque le sujet a l'air de passionner.
Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi un cumul d'abord des 12 jours d'une part et d'autre part de ce compte dedans ?
Bien sûr, c'est une proposition de François Ruffin qui est tout à fait audible aussi.
Et à noter que si peu de députés La République En Marche étaient présents hier dans l'hémicycle, l'un d'entre eux nous a confié que si le vote repasse à l'Assemblée, il votera oui au congé de 12 jours, et je le cite, avec les deux mains et s'il le faut, les deux pieds.
Thomas Larabi. On se penche aujourd'hui sur le sort des deux chercheurs français du CERI, le Centre de Recherche International, emprisonnés depuis juin dernier dans la prison d'Evin à Téhéran. Bonjour Philippe Reltian.
Bonjour.
Ces deux chercheurs, ce sont Roland Marshall et la franco-iranienne Fariba Adelka. Et vous avez des informations sur leurs conditions de détention.
Oui, ils sont en prison depuis maintenant 8 mois à Téhéran. Et la première chose à savoir, c'est qu'ils sont nombreux. Dans leur cas, il y a d'autres scientifiques. Écoutez leur ancien patron à Sciences Po, Jean-François Bayard, emprisonner des chercheurs en Iran, c'est selon lui une pratique assez courante.
La France est loin d'être la seule à avoir des ressortissants détenus, et notamment des ressortissants scientifiques, enfin des prisonniers scientifiques en Iran. C'est le cas des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de l'Australie, même je crois de la Suisse. Les Iraniens d'ailleurs disent que c'est la reconstitution d'une université dans les murs de la prison d'Evin, qui a été une véritable petite université, parce que non seulement il y a les étrangers, mais il y a également, ne les oublions pas, les universitaires iraniens eux-mêmes. Donc à Evin, vous avez une véritable Sorbonne.
Une petite Sorbonne peut-être, mais une Sorbonne aux conditions de vie très rudimentaires. Alors on va s'arrêter quelques instants sur ces conditions de détention. Philippe Reltien, c'est quoi leur quotidien aujourd'hui ?
Alors Fariba Adelka est dans la section générale des femmes, où elle observe une grève de la faim. Elle est mise sous perfusion. Et il y a de cela 8 jours, elle a entamé un sit-in pour demander aux gardiens de la Révolution de libérer Roland Marshall. Lui reste séparé dans la section réservée aux prisonniers politiques. Il est donc coupé du monde en compagnie d'un seul prisonnier iranien anglophone. Le consul l'a vu récemment, il va, mais le temps lui semble de plus en plus long, explique Bernard Ourcade, qui est directeur de recherche au CNRS.
Être enfermé sans aucun contact extérieur, avec des gens qui ne parlent pas votre langue, et ceci pendant 6 mois, finit par poser des problèmes. Il tourne en rond, il ne parle pas persan, il est dans une situation, il est toujours dans la prison traditionnelle, donc au secret, il n'a pas le droit de téléphoner à qui il veut, à sa famille, etc. Et c'est extrêmement dur pour lui. Apparemment, il n'y a pas un maltraitement physique, si vous voulez, mais il a des problèmes d'arthrose, etc. Et au début, il avait de sérieux problèmes médicaux, ne pouvant pas marcher en particulier. Ça avait été un peu amélioré après la visite du consul de France à Téhéran, qui avait permis d'avoir accès à des médicaments et avoir un peu de droit de se promener dans la prison.
Il peut se promener un peu, en revanche, il est soumis à la censure et on lui restreint la lecture.
Oui, on lui a confisqué le dictionnaire qu'il avait demandé. Elle, par contre, n'a aucun livre. Et si l'on en croit Richard Banegas, il n'a pas reçu non plus tous les livres qu'on lui a envoyés depuis Paris.
On a pu, par le biais notamment des visites consulaires, avoir quelques échanges avec lui. Et au moins, il nous a fait part aussi de ses demandes. Donc, il a fait en sorte qu'on puisse lui envoyer quelques livres. En fait, on lui en a envoyé beaucoup, mais peu lui sont parvenus, malheureusement. Donc,
est-ce qu'il lit ?
Alors, ben écoutez, c'était des livres plutôt de sciences sociales hein, qu'on lui a envoyés, de philosophie, mais aussi des romans. Avec Roland, on partageait aussi la passion des polars américains. Donc, on lui a envoyé quelques polars. Et là, il les a voulu en anglais. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, peut-être pour maintenir son niveau d'anglais.
Donc, leurs conditions de vie sont difficiles, mais c'est surtout Fariba Adelka qui proteste.
Par cette grève de la faim, qu'elle a commencé le 24 décembre en association avec l'Australienne Kyle Moore-Gilbert, condamnée à 10 ans pour espionnage, elle veut que les théocrates sortent de leur paranoïa et laissent leur liberté de mouvement à tous les scientifiques étrangers en Iran.
Et son état de santé est donc préoccupant. Maintenant, dans ce contexte, il y a quand même une petite lueur.
En effet, parce que le procureur révolutionnaire n'a pas retenu l'accusation d'espionnage qui la visait, ce qui veut dire qu'elle n'est plus menacée de la peine de mort. Mais elle risque tout de même 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, comment va se terminer cette affaire dépend des discussions dont on ignore la teneur. Mais pour l'humanitaire Ronnie Broman de MSF, la crise pourrait se dénouer peut-être avec un échange de prisonniers.
Je suis absolument convaincu, parce que c'est le cas de façon systématique, qu'il y a nécessairement une transaction cachée derrière ou un objectif de transaction. Les Iraniens ne peuvent pas avoir fait ça de façon totalement gratuite. Ils cherchent quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est aujourd'hui probablement Fariba Adelka qui en fera les frais en premier, Roland Marshall en tant que pièce rapportée en fait également les frais.
Donc lui serait libéré plus facilement qu'elle, c'est ce que vous nous dites.
C'est ce que l'on peut supposer compte tenu des statuts différents qui est le leur en Iran aujourd'hui.
C'est ce qu'on peut supposer.
Beaucoup veulent croire que les deux chercheurs français seront libérés, peut-être même le 11 février, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique, qui s'accompagne toujours de mesures de clémence.
La météo, le temps sera toujours d'une grande douceur ce samedi, des passages pluvieux dans la matinée sur l'ensemble du pays et quelques éclaircies qui arrivent par l'ouest dans l'après-midi. Température minimale 7 à 12 degrés et de 11 à 18 degrés au plus chaud de la journée.